remarque sur Don't Look Up, le film Netflix signé Adam McKay qui a fait sensation dans nos foyers au tournant de cette année. Don't Look Up, déni cosmique, où le tout Hollywood se bouscule pour raconter notre aveuglement et notre inaction à tous les niveaux devant la catastrophe écologique en cours. Ça vise les dirigeants politiques autant que les médias, l'industrie technologique, le show business et même le grand public. On ne veut ni voir ni entendre l'imminence de la fin. Don't Look Up, en anglais, ça veut dire ça. Ne regardez pas en l'air, circulez, il n'y a rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en insistant sur le déni, c'est pas une satire en fait, c'est une tragédie. C'est-à-dire le récit d'une personne ou d'un groupe qui a toutes les clés pour savoir, mais qui ne veut pas voir. Alors, que c'est là, sous nos yeux. Œdipe Roy de Sophocle raconte exactement la même histoire. On le prévient de son destin, il sait en même temps que nous tout ce qui va lui arriver, mais il se laisse prendre dans la machine infernale de la fatalité, au point d'en avoir les yeux crevés. Ce que nous dit la tragédie, celle d'Œdipe, celle du film Don't Look Up, celle qu'on est en train de vivre, c'est une relation très complexe à la connaissance. On a toutes les clés pour savoir, tout est sous nos yeux, mais jusqu'au bout, aussi fou que ça puisse paraître, on ferme les yeux. Ce qui est intéressant avec la tragédie, c'est pas tant qu'on sait très bien qu'elle en sera à la fin, c'est plutôt qu'encore aujourd'hui, 2500 ans plus tard, on fait semblant de pas avoir compris.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il dans le déni? Il est auteur de BD, plusieurs fois sacré au Festival d'Angoulême, pour Quai d'Orsay notamment, à 10 jours de la sortie d'un très beau carnet de voyage intitulé Nord-Sud. Son dernier album, Le Monde sans fin, décryptage des causes et conséquences du réchauffement climatique, écrit avec l'ingénieur Jean-Marc Jancovici et paru en octobre, est un immense succès en librairie et continue de faire parler de lui. Bonjour Christophe Blain.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est face au déni, c'est-à-dire face à la tragédie, Christophe?
Il faut essayer de la transformer en action. C'est pas facile. Faut trouver l'action. C'est pas évident. On l'a pas forcément tout de suite sous la main.
La bande dessinée, ça peut être une action.
C'est ça. J'ai la chance d'avoir ça. J'ai la chance d'avoir la bande dessinée. Je dis hop, ça me permet de faire une action.
Surtout quand il y a un succès aussi monumental. Là, c'est vraiment aux citoyens que je m'adresse à quelques mois d'une élection présidentielle. Comment est-ce qu'on explique au fond qu'il y ait si peu d'actions concrètes et efficaces, justement, puisque vous parlez d'action, Christophe?
Parce que dans un premier temps, déjà, il faut comprendre exactement ce qui se passe, ce qui est pas si facile. Et ensuite, parce que ça provoque une tétanie. Les gens sont, dès qu'ils savent ce qui se passe, ils sont tétanisés. Il faut attendre un petit peu de temps pour que ensuite, justement, ça passe à l'action. C'est pas facile.
Qu'est-ce que c'est un monde sans fin, pour reprendre le titre de votre dernier livre?
C'est plusieurs choses. C'est un monde qui ne veut pas finir, parce qu'on ne veut pas finir.
C'est ça.
D'accord, personne n'accepte sa propre fin. C'est un monde qui ne veut pas finir non plus d'être en expansion. Il a l'impression qu'il est éternel et pourrait être. Et c'est aussi un monde qui, même s'il va rencontrer des difficultés, va pas finir si vite que ça. Je sais pas dans quel état, mais je ne vois pas la fin de l'humanité aussi rapidement que ça, tel un excellent Aurélien Barreau. Mais je pense que l'humanité survivra à ces difficultés. Mais dans quel état et à combien?
Pourtant, il peut y avoir de la fin. Ce qui a une fin, par exemple, sont les ressources en énergie fossile. C'est le cœur de cet album. Qu'est-ce que c'est une énergie fossile, Christophe?
Une énergie fossile, c'est une énergie qui a été créée grâce à une vie ancienne qui s'est... à des plantes et des animaux qui sont morts il y a très longtemps, des planctons, et qui sont devenus des énergies fossiles. Donc en fait, ce sont des énergies qui peuvent tout à fait être renouvelables si on attend quelques millions d'années.
Mais pourquoi est-ce que encore aujourd'hui on a recours majoritairement à ces énergies alors qu'on sait justement qu'il faut attendre?
Parce que c'est pas pour rien qu'on les utilise, c'est parce qu'elles ont une efficacité et une pratique qui est sans égale et qui a permis le développement de notre société de manière fulgurante depuis 200 ans.
Un nouveau monde, une nouvelle civilisation.
Oui, c'est-à-dire que si on les a, c'est pas pour rien qu'on les emploie et qu'on continue de les employer, et les remplacer est quelque chose de pas facile, surtout à l'échelle à laquelle on les emploie. Et du besoin énergétique qu'on a, ça se remplace pas comme ça, quoi.
Alors, ce qui est passionnant, c'est que vous mettez tout ça en image. Cette nouvelle civilisation dont on vient de parler, qui a été créée notamment par le recours aux énergies fossiles, quelle nouvelle individu est-ce qu'elle a permis de faire surgir? Christophe Blain.
Un nouvel individu, enfin plein de nouveaux individus. Déjà, enfin là au stade où on en est, ça fait plein d'individus avec des téléphones portables, des smartphones. Je sais pas si c'est un stade ultime de l'évolution le plus intéressant.
Les Iron Man.
Des Iron Man. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Oui, nous sommes des Iron Man.
Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Là, par exemple, nous sommes des Iron Man.
Ah, parce qu'on a des ordinateurs devant nous, on les regarde pas.
Parce que mais on parle à des gens qui ne nous voient pas et qui sont peut-être à des milliers de kilomètres.
Vrai.
Voilà, donc on a un super pouvoir.
Vrai.
On a un morceau de l'exosquelette d'Iron Man.
Vrai.
C'est un des super pouvoirs d'Iron Man, c'est de pouvoir parler, enfin de communiquer avec des gens qui sont très loin, de voir très loin, de soulever des choses très lourdes. Ce qu'on ne fait pas en ce moment, mais il suffit de regarder une grue là dehors, ouais, dans Paris. C'est un morceau de l'exosquelette, de venir avec une voiture, on peut de prendre l'avion, etc. C'est des super pouvoirs qu'on utilise et c'est des morceaux de l'exosquelette d'Iron Man. Lui les a dans sa propre armure, mais on utilise plusieurs morceaux de cette armure tous les jours.
Alors vous, il faut le dessiner, cet Iron Man. Comment vous le dessinez?
Je le dessine avec un grand nez. Non, c'est-à-dire que voilà, je vais vous expliquer.
On va y revenir, ça.
Oui, oui. Non, c'est un gimmick que j'ai trouvé dans mes bandes dessinées parce que, en fait, l'histoire commence où Jean-Marc Jancovici m'explique, parce que l'album est fait sous forme d'une conversation, il m'explique ce que c'est que l'énergie. Il me dit l'énergie, c'est ça, et il me montre une armure d'Iron Man. Il dit, en fait, utiliser de l'énergie, c'est utiliser des machines. Utiliser des machines, c'est utiliser de l'énergie. Et donc, cet exosquelette qui nous permet de vivre, il dit voilà, c'est ça, il montre Iron Man et j'essaye d'enfiler le costume d'Iron Man, mais comme je me dessine avec un grand nez, je suis obligé de modifier je suis obligé de modifier parce qu'il a une face toute plate, Iron Man. Je modifie son casque et je lui mets un grand nez, ce qui permet de ne pas avoir de problème de droit avec Marvel. C'est un Iron Man caricatural.
Christophe Blain, pour assurer la survie de l'espèce humaine, faudra-t-il donc renoncer à être un Iron Man? Parce que dans un monde de plus en plus connecté, ça semble de plus en plus difficile à envisager. En fait.
Renoncer complètement à être un Iron Man, on n'y arrivera pas tout de suite. Mais il va falloir modifier son costume. Peut-être qu'il y a des parties du costume qu'on va devoir utiliser moins, différemment. Ça va être une adaptation progressive.
Comment vous faites, vous, votre cerveau, il est aussi programmé pour en vouloir toujours plus, non?
Oui, je suis comme tout le monde.
Alors, comment vous faites?
Moi, vous voulez dire personnel?
Écoutez,
je ne sais pas, je suis sur mon chemin de rédemption. Je commence par faire des bandes dessinées qui parlent de ça. Non, il y a des choses que j'envisage de faire moins de choses, effectivement. Je me déplace en train, je me déplace en vélo, je n'ai pas pris l'avion depuis très longtemps.
Et puis vous témoignez, vous traduisez, vous translatez, effectivement. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est la manière dont vous, qui n'êtes ni scientifique ni ingénieur, vous avez assimilé et retranscrit par le dessin ces connaissances qui vous ont été transmises par Jean-Marc Jancovici. Comment on fait pour retranscrire, justement, en images, en dessin, un concept scientifique qui est somme toute assez complexe?
Alors, d'abord, je suis aidé par Jean-Marc Jancovici lui-même, qui est un personnage qui est une espèce de génie de l'image analogique. C'est-à-dire que quand il a quelque chose de compliqué à expliquer, notamment, l'Iron Man, c'est lui qui l'a trouvé.
Ouais.
Il donne une image et tout de suite on comprend. Le public à qui ça s'adresse,
quand vous dites qu'il l'a trouvé, il a dû faire une métaphore en fait. Et vous l'avez transcrit. Ouais.
Je prends pied à la lettre. Il le dit dans ses conférences, quand il donne des cours, il dit voilà, on est des Iron Man. Je dis formidable. Il m'a donné, il m'a tout donné. Là, j'ai plus qu'à dessiner exactement. Et il y a exactement ce qu'il a dit. Mais c'est arrivé très souvent qu'on trouve aussi des images ensemble, que j'en trouve quand on est en discussion, que lui en trouve, et de s'amuser le plus possible pour rester le plus ludique possible et le plus compréhensible possible quand on parle de choses qui peuvent être assez complexes.
Celle qui est tragique et ludique à la fois, dans cette émission vous la connaissez Christophe, c'est évidemment la culture et son actualité. Bête à manger du foin, que se passe-t-il donc aujourd'hui mardi 18 janvier?
En fait, le film était difficile à faire et je crois que ma joie est à la hauteur des obstacles qu'on a surmontés.
Lumière sur les lumières, la presse internationale représentée par 95 correspondants a récompensé hier le cinéma français lors de la 27e cérémonie des Lumières. Résultat, comme à Venise, c'est le puissant long métrage d'Audrey Diwan, L'Événement, qui est sacré meilleur film, tandis que sa comédienne Anna Maria Bartolomei repart avec le prix de la meilleure actrice. Annette de Léos Carax réalise quant à lui un triplé avec les prix de la mise en scène, de la musique et de l'image. Dans le reste du tableau, Benoît Magimel, Agathe Roussel, Timothée Robard ou encore Xavier Giannoli, c'est joli. La comptine rétro-pop Baby Shark vient de dépasser les 10 milliards de vues sur YouTube, un record totalement inédit sur la plateforme. À titre de comparaison, les vidéos de Despacito ou de Shape of You d'Ed Sheeran n'ont été vues que 7,7 et 5,5 milliards de fois respectivement. La chanson pour enfants interprétée par la jeune chanteuse Hope Sigoin a été composée il y a 6 ans par une entreprise sud-coréenne avant de devenir un phénomène viral mondial.
Voici des siècles que Paris est connue comme la capitale authentique de la mode.
Chic, c'est Fashion Week, c'est parti pour la semaine de la mode masculine automne-hiver 2022-2023. Christophe qui déploie ses podiums dès aujourd'hui à Paris. Malgré Omicron, la manifestation va pouvoir se dérouler un peu en physique, puisque près de 17 maisons sur les 76 inscrites au programme prévoient de défiler. C'est 3 fois plus qu'en juin dernier. Parmi les rendez-vous les plus attendus de la semaine, la présentation Vuitton, jeudi, qui montreront les ultimes travaux du couturier Virgil Abloh, disparu en novembre dernier. Et enfin, c'est Michel qui dit oui. Michel Polnareff s'apprête à faire son grand retour. Le chanteur aux lunettes blanches installé aux États-Unis vient d'annoncer l'organisation en mai prochain de Polnareff, une expérience immersive qui s'installera pour 3 mois au théâtre du Palace à Paris. Entre live show dématérialisé et voyage onirique, l'événement prévoit de retracer près d'un demi-siècle de Polnamania avec des expositions d'archives, concerts en live string, happening du futur. Les billets sont en vente depuis hier sur le site de la Fnac notamment. Ça claque. L'auteur de BD, Christophe Blain, invité de Boomerang ce matin, parlait de dessin. Et là, je pense à votre livre Nord-Sud, qui paraît dans 10 jours, un livre qui réunit des dessins que vous avez réalisés pendant des voyages en Lettonie et au pôle Nord, il y a plusieurs années. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la pratique du carnet de voyage ?
Pôle Sud, pardon. Antarctique. J'ai pas été au pôle Sud, j'étais en Antarctique. J'étais sur la base du Mont d'Urville.
Pôle Sud, ouais, bien sûr.
Ouais, la base du Mont d'Urville.
Le carnet de voyage.
Bah, j'ai commencé par ça. C'était ma première activité. J'ai commencé même quand j'étais étudiant. Voilà. Il y a un prof des Arts Déco qui. J'étais pas aux Arts Déco, mais qui recrutait des jeunes étudiants pour une collection qui s'appelait Les Carnets du Monde. Et il envoyait un journaliste ou une journaliste et une illustratrice ou un illustrateur sur un sujet. Moi, j'étais parti. Le sujet que j'avais fait, j'étais pas fier parce que j'avais jamais voyagé plus loin que l'Irlande. J'étais parti au Bangladesh en avril 91 pour faire un carnet sur la reconstruction après le cyclone d'avril 91 qui avait été incroyablement dévastateur.
Attendez, c'est passionnant. Ça veut dire que ça a conditionné votre rapport au dessin aussi. Ça fait partie de votre formation, votre rapport à la feuille de papier, au crayon, au sujet que vous avez sous les yeux.
J'ai plein de façons de dessiner. Je dessine ce que je vois. Je le fais un peu moins maintenant.
Mais là, ce sont les origines.
Oui. Mais au départ, je me destinais pas à ça. C'était une opportunité. Puis je l'ai travaillé. Je me rappelle pour pouvoir faire partie de cette collection. Et commencer à faire mon premier livre, j'avais 19-20 ans, j'allais dessiner dans Paris dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire je me mettais sur des chantiers, je faisais des grands pastels, j'allais dans le métro, je dessinais par tout temps, je me mettais sur les plateformes arrière de bus qui existaient encore à l'époque, j'ai l'âge d'avoir connu les plateformes arrière de bus.
Oh, moi aussi Christophe, je vous rassure.
Ah bon ? Ah oui, ça me fait du bien, on est entre yeux, vous voulez dire ?
Alors, déjà parce qu'on dit yeux, ça c'est sûr. Et vous dites qu'aujourd'hui, effectivement, vous préférez... Le travail d'atelier, travailler en atelier, qu'est-ce que ça vous permet? Quel genre d'expérimentation? Parce que c'est ça, je suppose.
Bien, parce que j'ai besoin de maintenant, je m'oriente plus vers écrire des histoires. Je dessine toujours autant, mais mon dessin est beaucoup plus destiné à j'écris beaucoup plus. J'écris des histoires. Écrire et dessiner va ensemble. Et puis j'ai besoin de le faire lire. Et puis il se trouve en plus que je travaille. J'ai trouvé un camarade d'atelier avec qui je travaille depuis 20 ans. Plus de 20 ans.
Qui s'appelle
Mathieu Sapin.
Ah, quand même.
Nous vivons en couple, nous sommes un couple de travail.
Pas trop d'informations quand même, Christophe.
Bah écoutez,
le sensationnalisme là. Hein.
Non mais c'est comme ça, maintenant on est un couple officiel. Enfin, ça fait tellement de temps qu'on travaille ensemble, tout le monde le sait.
À quel moment la BD vous est apparue comme un espace qui offrait aux dessinateurs une infinité d'expérimentations possibles?
Bah, j'ai appris à lire avec la bande dessinée et je l'ai abandonné à la fin de l'adolescence pour m'intéresser à d'autres choses, notamment la peinture.
C'était quelle bande dessinée ?
Les premières bandes dessinées avec lesquelles j'ai... Alors, ma première bande dessinée, la toute première bande dessinée que j'ai eue, qui est mon premier livre, je pense, est le premier Lucky Luke qui s'appelait La Mine d'Or de Dick Digger.
Ah bah, on parle d'origine, là. Il y a voilà, une figure intéressante.
Et qui est un Lucky Luke complètement différent des autres, qui était dessiné à la fin des années 40 et qui a un côté très... les premiers dessins animés de Disney. Il y a un côté nouille, comme ça, qui est sublime.
Est-ce que c'est pour ça, Christophe, qu'il y a la figure du cow-boy à peu près partout chez vous? Dans votre série Gus, dans votre variation sur Blueberry, et dans une certaine mesure dans la façon que vous avez de dessiner, c'est passionnant, hein. Jean-Marc Jancovici dans Le Monde sans fin, avec, je vous cite, son regard de vieux cow-boy. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette figure-là?
Bah écoutez, c'est une fascination qui est tellement originelle que je ne peux même pas... Elle reste mystérieuse pour moi-même. Regardez, même ce matin, j'ai une chemise en jean de cow-boy.
Je vais vous décrire, vous croyez quoi?
Et c'est comme ça. Depuis que j'ai 5 ans, je crois que je suis un cow-boy. Alors que je suis un petit français vraiment de base, mais quand je veux me faire plaisir, je crois que je suis un cow-boy qui part dans les plaines de l'Utah, tiens, ou du Nouveau-Mexique. Voilà, ça me fait très plaisir de penser ça.
Ça pose une question intéressante. Qu'est-ce qui fait un bon personnage de BD pour vous, Christophe Blain?
Qu'est-ce qui fait un bon personnage de BD? Alors, pour ma pratique personnelle, c'est un personnage avec qui je me sens en connexion tout de suite. Dès qu'il apparaît sur la page, il a son indépendance. Mmh. Il sait quelqu'un. Ça devient quelqu'un. Mais c'est vrai, c'est pas du tout de la blague. C'est que à partir du moment où les personnages que je crée dans ma petite tête, deviennent des gens auxquels je crois. Alors, parfois parce que ce sont des gens dont je me suis inspiré, mais là où c'est vraiment incroyable, c'est que ça arrive généralement quand je leur fais faire quelque chose que j'ai pas prévu.
Ah, c'est ça, parce que je pense qu'il faut pas qu'il nous saoule aussi, le personnage, il faut qu'on soit content d'être avec lui quand même pendant un certain temps.
Souvent c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un aller-retour entre ce qu'on veut raconter et le dynamisme qu'on veut mettre dans une histoire. Il y a un moment, on se rend compte que son histoire, on sait trop ce qu'on veut raconter, elle patine, et à un moment, on est obligé de mettre ce qu'on appelle une bombe, c'est-à-dire qu'on met quelque chose qu'on n'a pas du tout prévu, le personnage, on le casse, on lui fait faire autre chose. Et à partir de ce moment-là, il devient quelqu'un qu'on ne connaît plus vraiment, et il a sa propre indépendance. Il vit tout seul.
Le nez, c'est une bombe?
Le nez, c'est un symbole phallique.
Oui, ben alors, j'allais vous le dire, je pensais faire mon intéressant, parce qu'hier, il se trouve que je me suis rendu dans la galerie qui expose certaines de vos planches, et j'ai posé cette question du nez, et on m'a répondu tout de suite.
Non,
c'est très phallique, pour Christophe.
Je dessine beaucoup de personnages avec des grands nez, des hommes, des femmes avec des grands nez, mais aussi avec des petits nez. Mais il faut voir aussi, il y a une question, c'est la bande dessinée. Ça permet, un grand nez permet une identification immédiate. Alors, je l'ai poussé jusqu'à l'absurde. C'est vrai que, puis je l'utilise pour mon propre avatar, quand je me dessine moi, c'est devenu un masque, et je me dessine avec un grand nez, oui.
Mais ce qui m'intéresse, c'est la vocation et c'est l'idée ici, l'envie de faire rire, et dans Le Monde sans fin, malgré la gravité du sujet que vous abordez, vous parvenez encore à faire rire. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Christophe,
je suis obligé je peux pas m'en empêcher. Et puis j'ai travaillé avec Jean-Marc Jancovici, qui lui-même est un bon vivant et un joyeux de rire. Il fait beaucoup de blagues, y compris des blagues un peu noires, mais c'est quelqu'un qui aime rire, et on ne peut pas faire autrement que d'avoir un humour, enfin de raconter les choses avec humour, y compris un humour assez acide. Vous parliez de Don't Look Up. Oui, on a besoin d'un humour un peu acide, enfin même assez acide, pour pouvoir raconter ces choses-là.
D'ailleurs, dans la tragédie, y compris chez Shakespeare, il y a beaucoup plus de comédie qu'on ne le croit. Il y a toujours des moments, effectivement, de rire.
Il le faut. C'est obligatoire. Enfin, on a besoin de rire des choses tragiques.
On va reparler de rire, hein, mais aussi de dessin et de temps juste après Pink Floyd, See Emily Play. C'est la chanson que vous vouliez entendre ce matin, Christophe Blain. Ça nous va très bien. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Boomerang.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no... Emily cried.
on a gown that touches the ground. Out on a river forever and ever, Emily.
Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Dis-moi, il n'est pas du tout Syd Barrett, hein. Ni Lucky Luke, parce qu'en fait, il est plutôt Jolly Jumper. À la rigueur, le regard saut d'obstacle, le sourire pur sang, la narine frémissante, le crin coupé court, le menton volontaire, la répartie facile, tout en chemise en jean. De Cowboy, effectivement, l'auteur de BD Christophe Blain, invité de Boomerang pour nous parler d'un monde sans fin dont vous exploserez dès après-demain certaines des planches à la galerie Barbier où je me suis rendu hier à Paris. Exposer vos dessins, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que vous avez longtemps été, pour lequel vous avez longtemps été réticent. Pour quelle raison ?
Parce que c'est un boulot. Non, parce que ça se fait, ça demande une implication.
Ah, c'est juste la paresse en fait.
Bah oui. Non, c'est assez étrange quand je vois mes dessins exposés au mur, bien présentés dans un cadre, parce que pendant longtemps ils ont fait partie de ma vie quotidienne. Sur un bordel, sur une table. Enfin, sur un bazar, pardon, excusez-moi.
Et quand vous dites de ma vie quotidienne, peut-être aussi de votre vie intime.
Mais oui, maintenant, mais il y a un rapport. Je me souviens tout ce que je vivais au moment où je l'ai fait. C'était là du papier que je touche, enfin, et ça devient un objet d'exposition valorisé, etc. C'est assez étrange quand je le vois. Ça me fait un effet tout à fait bizarre.
Au fond, de quoi témoigne un dessin ?
Oula. De quoi témoigne en partie de l'état d'esprit du moment de celle ou de celui qui l'a fait. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a un truc qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, particulièrement quand c'est fait par une seule personne, mais même quand c'est fait par deux finalement, c'est qu'on voyage à l'intérieur du crâne de quelqu'un.
Oui.
Avec tout ce que ça a d'étrange, on est vraiment dans un monde interne, on est vraiment dans une psyché qui va au-delà de ce que peut maîtriser son auteur ou son autrice.
Vous savez, j'ai pas pu m'empêcher de noter que la rétrospective qui vous sera consacrée au Festival d'Angoulême en mars s'intitule « Dessiner le temps ». Ça se dessine, le temps ?
Bah, c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que dans la bande dessinée, il n'y a pas de temps. Le temps réel n'existe pas. Quel est le temps entre deux cases ? Et c'est quelque chose qui m'obsède. Alors, ce titre a été choisi par un de vos confrères qui s'appelle Antoine Guyot.
Qui est formidable.
L'excellent ouais. Antoine Guyot, historien et critique du cinéma, qui a une émission sur France Culture.
Bien sûr, bien sûr. Et formidable. J'invite tous les auditeurs du Boomerang à écouter au podcast.
C'est Antoine qui a dessiné ça parce qu'il a vu que c'était, parce que je lui en ai beaucoup parlé et que c'était mon obsession de savoir, notamment, quel est le temps qui se passe entre deux cases, qui est vraiment un des problèmes fondamentaux de la bande dessinée. Il faut que la lectrice ou le lecteur comprenne qu'entre deux cases, il se passe une minute, deux secondes, 10 ans, 100 ans, on ne sait pas, une demi-heure. Comment le faire comprendre ?
Ça veut dire aussi, Christophe Blain, que tout votre travail témoigne littéralement du temps qui passe.
Oui, je pense que c'est une de mes obsessions, oui. J'essaye de ne pas y penser, mais je crois que c'est, malgré moi, c'est une de mes obsessions. Oui.
Vos premiers dessins, vos dessins d'enfant, vous les avez gardés ?
Oh oui, il doit y en avoir. Il doit y avoir des empreintes de faites dans une peinture plus ou moins déterminée avec une petite main qui fait du splitch sur des. Oui, non, j'ai toujours dessiné. J'ai absolument
toujours
dessiné.
Mais il représentait quoi ces dessins ? C'était pas seulement des taches.
Oh ben, je pense qu'il y a dû y avoir des cow-boys assez vite. Non, il y a eu toutes sortes de choses. Non, c'était très varié. Non, c'est difficile à décrire. Il y a eu de tout. C'est marrant, là, vous me le dites. Je me souviens qu'à 5 ans, j'ai dessiné une machine à fabriquer des fantômes.
Excellente idée.
Il y avait des gens qui rentraient dans une machine et puis ils ressortaient, c'était des fantômes.
Excellente idée.
Je sais pas, c'était peut-être déjà mon obsession de la mort. Il y avait quelque chose là-dessus, je sais pas.
Christophe Blain, tous les enfants dessinent. Comment on explique que certains s'arrêtent et que d'autres continuent ?
Eh ben, il y en a certains pour qui ça constitue une sorte de refuge, j'imagine. Mon père me disait que une chose qui me semble assez simple, il me disait mais que j'étais très content quand je dessinais. Je disais, parce que moi, quand je dessine, dans ce que je dessine, je fais ce que je veux. La vie est ce que je veux. Ça se passe comme je l'entends.
Vous êtes Dieu, en fait.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est le Dieu d'une petite cosmogonie dans la limite d'une feuille qui, en fait, n'en a pas. On voit pas la limite de sa feuille quand on dessine. On voit pas la limite de son carnet. On voit pas. On est complètement à l'intérieur. On est dans un univers qui est sans fin.
C'est beau que vous parliez de cosmogonie et d'univers. L'idée, c'est la possibilité, c'est aussi d'imaginer d'autres mondes, littéralement.
De réimaginer le monde, parce qu'en fait quand on imagine d'autres mondes, c'est qu'une interprétation du monde qu'on a autour de soi.
Alors peut-être de comprendre.
Ça permet de le comprendre. Quand on regarde, ça permet de se comprendre déjà, parce que si on est attentif à regarder les dessins qu'on a pu faire sur une grande période, c'est comme c'est un travail analytique. On dit tiens, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, j'ai raconté ça, mais finalement je suis peut-être j'ai tel type d'obsession. On le fait malgré soi.
Et puis parce que le dessin prend du temps. Là aussi, il s'agit de dessiner une forme de temps, cerner les contours d'un objet, les reliefs. Ça permet, je suppose, de prendre son temps et de s'interroger et d'interroger aussi ce qu'on est en train de dessiner, donc le monde.
Oui. Ben on court toujours après le temps. À partir du moment où on fait des livres, on court après le temps, parce qu'il faut toujours que le livre sorte, soit fini, sorte au bon moment, et on a envie qu'il existe. Donc on est toujours en train de. Ça, c'est une autre forme d'aborder le temps depuis que c'est devenu mon métier. Quand j'étais enfant, c'est effectivement, j'étirais le temps. Je ne voulais pas sortir de mon dessin. J'étirais le temps jusqu'à ce qu'il. On est hors temps en fait quand on dessine.
On parle beaucoup de dessin, Christophe Blain, mais les mots dans tout ça?
Ah bah ils sont devenus aussi importants que le dessin. J'ai autant besoin d'écrire des histoires que de dessiner. Je peux pas dissocier l'un et l'autre. Pour moi, c'est mon dessin est fait pour raconter des histoires, même quand il y a pas de mots. Je suis tout le temps en train de me raconter quelque chose. J'ai besoin de me raconter quelque
chose. Là, par exemple, maintenant, vous racontez quoi?
Non, mais là, je suis concentré parce que je suis avec vous et j'essaye de ne pas penser à autre chose, en tout cas pas trop. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui travaille. Mais si je marche dans la rue, par exemple, j'ai besoin de me raconter des histoires. J'ai besoin de me bercer tout le temps.
Parce que là, c'est un texte que vous nous avez écrit ce matin, qui est un texte sur l'art de raconter des histoires. Vous qui êtes, on le rappelle, auteur, donc scénariste également. Ce texte, j'aimerais bien que vous nous le lisiez.
Alors, monsieur, virgule, vous m'avez demandé d'écrire un texte court concernant éventuellement mon humeur ou ma préoccupation du moment. Un genre de chronique que je vais devoir lire à ce micro. En somme, vous me demandez de faire quelque chose qui ressemble à votre métier. En conséquence de quoi ? Je vous demanderai à mon tour de vouloir bien me faire un dessin.
Non.
Alors tenez, voilà un crayon,
ouais.
Un carnet.
Merci.
Allez-y, il vous reste 1 minute 30.
Oh là là, pendant que vous parlez, hein, parce que sinon...
Alors, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce texte parce que je ne suis pas avec vous. Je suis en Arizona. Je suis en Arizona pour vous raconter une histoire. Je n'y suis pas vraiment, mais je suis complètement dans mon histoire. J'écris un western. J'adore qu'on me raconte des histoires. J'en ai terriblement besoin. Quand on ne m'en raconte pas, c'est moi qui en raconte. Parfois, il faut éprouver la réalité, ne pas rester dans son monde pour raconter des histoires. C'est avec cette perspective en bandoulière que je suis allé trouver Jean-Marc Jancovici, afin qu'il me raconte la réalité du monde, c'est-à-dire là où nous en sommes vraiment. C'était assez angoissant. Mais Janco a l'intelligence et l'élégance de raconter cette réalité avec des histoires, pour mieux nous la faire comprendre, pour avoir un imaginaire commun. C'est extrêmement important d'avoir un imaginaire commun, pour mieux se comprendre. L'imaginaire commun nous permet de dépasser notre finitude, d'être plus que nous-mêmes. C'est un monde sans fin. C'est curieux que nous ayons tant de mal à changer notre façon de vivre, même en sachant ce qui risque de nous arriver. Peut-être avons-nous besoin de l'éprouver pour vraiment le comprendre. J'ai peur qu'à ce moment, nous ne puissions plus nous raconter d'histoire.
Vous le pensez vraiment ?
Ah oui, c'est ma terreur. J'ai peur que... En fait, la plus grosse peur que j'ai, c'est que le monde devienne tellement difficile à vivre que j'ai plus le loisir de développer mon imaginaire.
Ah, je vais vous aider à le développer, là. Regardez le petit dessin que je vous ai fait. C'est mon chien Jean-France qui vous appelle Yeuve.
Sublime. Sublime dessin d'un chien extrêmement bien dessiné.
C'est un cocker. Merci infiniment, Christophe Blain, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que Le Monde sans fin, avec Jean-Marc Jancovici, est publié chez Dargaud, que vous en exposerez quelques planches dès vendredi à la galerie Barbier à Paris, en attendant la parution de Nord-Sud chez Casterman dans 10 jours, en attendant Angoulême, décalé du 17 au 20 mars, où une rétrospective vous est consacrée, intitulée, on l'a compris, Dessiner le temps. C'était une joie de vous avoir à ce micro. Tout de suite, les médias, Sonia De Villéa et son Instant M, juste après ça.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit. Dis-moi, minuit, Marseille, je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent. La vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors si on change tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Minuit, réveil, je deviens dingue, Paris bouteille. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors si on changeait.
R2B, Rayon Gamma, il est 9h40 sur France Inter, Sonia De Villers, l'Instant.
Elle est bien
M.
cette chanson.
Elle est bien, hein.
Ouais.
Je faisais la remarque justement à Christophe et à la régie pour dire qu'on aimait beaucoup cette paire de B.
Bah oui. Bon bah voilà, j'ai Alain Mabanco en face de moi qui est habillé tout en jaune en mauve et qui me fait des grands signes d'hôtesse de l'air.
Ça va être passionnant.
Vous pouvez mettre votre casque, Alain Mabanco, si c'était ça la question.
Je n'entendais rien.
Ah bah voilà, bah, mettez-le puis réglez-le.
Ça va Sonia?
Oui, tout
va
bien. Allez, salut Augustin,
à demain.
À demain.